Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais être seule parce que Madeleine Dieu nous a quittés. Elle qui est venue, avant sa maladie, régulièrement accompagner Marie-Claire. Nous avons une pensée spécialement à elle. Oui, là maintenant, je vais parler du rapport Mapping, qui remonte loin, puisque le début de la guerre au Congo, au démocratique, remonte en 2003. Mais lors de la remise de son prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège, le 10 décembre 18, le docteur Denis McBone a tenté de briser un tabou. Il a évoqué tout haut un sujet que tous les diplomates avaient abordé en public, le projet Mapping. Sous ce nom jargonneux se cache un inventaire des graves violations des droits humains commises en République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003. À l'époque, le bilan humain fut catastrophique. On a du mal a énoncé le chiffre de plus de 4 millions de Congolais morts des suites directes ou indirectes des conflits. Plus de 40 000 fillettes et femmes victimes de violences sexuelles et environ 3 millions de personnes déplacées. Mais l'horreur de ces chiffres n'a pas suffi à convaincre la communauté internationale de l'importance de juger les responsables de ces crimes. Depuis sa publication en 2010, ce rapport Mapping est passé sous silence, ce qui participe à l'impunité des violations qu'a subies la population congolaise pendant 10 ans. Oui, en septembre 2005, 3 fosses communes sont découvertes dans la région de Kiwi. Une équipe de spécialistes est mise en place sous la tutelle du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, avec un budget de plus de 2 millions d'euros. En mai 2007, le président Joseph Kabila approuve le projet Mapping. Durant 7 mois, 33 experts congolais et internationaux des droits humains rassemblent des documents et interrogent des témoins. Lorsque la première version du rapport est diffusée en juin 2009, les pays mis en cause cherchent à la censurer. Échauffés par l'allégation des crimes du génocide, le Rwanda encourage les autres pays de la région à dénoncer le document. Et on verra pourquoi plus loin. L'appel est suivi par l'Ouganda en septembre. Malgré tout, le haut commissaire rend public le rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme en mars 1993. Thank you. Parmi les auteurs de ces crimes sont cités des groupes rebelles congolais et les forces armées nationales, ainsi que, entre autres, les forces armées ougandaises, burundaises, angolaises, rwandaises, tchadiennes et d'autres groupes rebelles étrangers. Concernant les massacres de la première guerre du Congo, commis principalement sur des réfugiés hutis, si on s'en rappelle, rwandais, et des citoyens hutus congolais, le rapport indique que les attaques commises par l'armée rwandaise révèlent plusieurs éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant le tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide. Alors, le rapport conclut que la majorité des crimes documentés, avec des spécialistes, on l'a vu plus haut, peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Problème, l'identité des auteurs présumés de ces violations, environ 200 personnes, dont plusieurs dizaines de responsables de premier plan, n'apparaît pas dans le rapport. Mais ces noms figurent dans une base de données confidentielle à la disposition de l'HDDH. Et on pourrait se demander des questions, pourquoi reparler de ce rapport mapping aujourd'hui ? Clément Boursin nous dit « Le rapport mapping gêne plusieurs présidents encore au pouvoir dans les pays d'Afrique qui ont été impliqués dans les exactions. Certes, il est de la responsabilité première des autorités congolaises d'engager la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. C'est à la communauté internationale de prendre le relais. » Or, jusqu'à ce jour, elle a préféré enterrer ce rapport pour ne pas froisser ses présidents. Elle a laissé faire les tentatives de discrédit alors que ce domaine dense et détaillé est le résultat, comme je le disais tout à l'heure, d'un travail rigoureux et professionnel. Par exemple, au Rwanda, des proches du pouvoir discrédite régulièrement ceux qui font référence au rapport mapping, affirmant qu'il a été fait à l'instigation de personnes opposées au gouvernement rwandais. C'est toujours facile de trouver des bonnes causes. Il faut aussi rappeler que lorsque l'ONU a mis fin au rapport mapping en 2010, cela s'est fait avec le concours des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui alors étaient alliés au Rwanda et à l'Ouganda. Deuxième question qu'on peut se poser, en quoi la lutte contre l'impunité est-elle fondamentale pour construire la paix aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où les auteurs présumés des crimes graves sont toujours présents dans les plus hautes instances dirigeantes politiques et militaires. Non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans les pays voisins. L'impunité des criminels constitue un fardeau pour la pacification de ce pays sur le long terme. Divulguer publiquement leurs noms contribuerait immanquablement à les écarter du pouvoir, à les amener devant la justice et à libérer la parole des victimes et des témoins qui ne seraient plus contraints de vivre dans la peur des représailles de leurs bourreaux. Et ça depuis 10 ans. Il est temps de demander de manière continue que les responsables politiques et militaires répondent de leurs actes devant la justice. Troisième question qu'on peut se poser. L'alternance politique représente-t-elle un espoir pour les victimes aujourd'hui? Durant le long règne du président Joseph Kabila, de 2001 à janvier 2019, l'impunité est demeurée la règle. Aujourd'hui, le contexte politique a changé. Un nouveau président de la République a pris ses fonctions en janvier 2019. Il a annoncé que la paix et la sécurité seraient au centre de ses priorités. C'est donc une opportunité politique. Il est temps d'engager une action nationale et internationale, ferme et concertée pour rompre le cycle des violences, et plus largement, non seulement dans la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Cela ne pourra se faire au détriment du rapport Mapping, dont les recommandations doivent être mises en œuvre. La prochaine réunion aura lieu à Rochève le lundi 16 décembre, mais plus à 20h, maintenant à 18h30. Donc rendez-vous le 16 décembre à 18h30 à Rochève. Au revoir, chers visiteurs, et merci.